penser et dire sa foi. Une émission proposée par Jean-Michel Poirier. Penser et dire sa foi en dialogue avec des enseignants de l'Institut catholique de Toulouse pour mieux comprendre et communiquer la foi chrétienne.
En dialogue autour du prophète Jérémie avec l'abbé Cyprien Comte, enseignant à la faculté de théologie, où il enseigne notamment donc un cours sur les prophètes. Bonjour Cyprien.
Bonjour Jean-Michel.
Alors la fois précédente, nous avions vu Jérémie regarder un amandier, et puis ensuite rentrer chez lui, voir une marmite qui bouillonnait, et maintenant on va le voir chez le potier.
Eh oui, nous sommes sans doute à Jérusalem, même on a fait quelques hypothèses sur l'endroit où pouvait se trouver ce potier. Il faut ouvrir votre Bible, sauf ceux qui conduisent, au chapitre 18 de Jérémie. Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur le contexte?
Bien sûr.
Les confessions de Jérémie. On les a déjà évoquées en introduction de cette série d'émissions. En fait, il y a plusieurs passages particulièrement poétiques dans le livre de Jérémie. On les trouve au chapitre 11 et 12, au chapitre 15, au chapitre 17, au chapitre 18 et au chapitre 20. Et en fait, ce sont des textes particulièrement poignants où Jérémie dialogue, on a envie de dire en direct, avec Dieu, et même souvent où il se dispute avec Dieu, en fait, où il se plaint des mauvais traitements que ses contemporains, y compris ses proches, lui font subir, et il va jusqu'à remettre en cause sa vocation, tellement il a du mal à supporter sa mission et les sévices qu'elle lui occasionne. On peut dire que ce sont des prières, donc entre Jérémie 11 et Jérémie 20, des prières extrêmement audacieuses, et qui témoignent à la fois de l'intimité que ce prophète entretient avec Dieu, mais aussi de la liberté qu'il a pour s'exprimer. Quelquefois, vous savez, quand on forme les gens pour la prière, on leur dit, en fait, les mots de la vie quotidienne sont importants. Merci, pardon, s'il te plaît, bravo. Et on peut dire aussi que la Bible ne met pas sous le boisseau les prières en forme de pourquoi. Et il y a même des livres presque entiers qui sont consacrés à ce genre de choses. Je pense à Job, bien sûr. Dans un congrès, on avait une universitaire d'une grande institution parisienne et qui, je me rappelle, s'était exclamée suite à une question sur Jérémie. Elle dit « Ah mais oui, c'est un texte quasiment jobien, vous voyez ?»
Oui, alors ça m'évoque le début des lamentations donc, que la tradition grecque attribue à Jérémie, mais dont nous savons que ce n'est pas lui qui en est l'auteur. Et le livre des lamentations commence avec un cri qui est un cri de détresse, quelqu'un qui vient de voir sa maison s'effondrer, ses enfants peut-être, ou des gens tués à côté de lui, je pense à l'actualité bien sûr, et c'est le cri de détresse, et on va partir de ce cri. Voilà, donc il y a une manière aussi de transcender cela par la littérature, par la poésie, et c'est le cas des confessions de Jérémie.
Ça vaut peut-être la peine de lire un passage particulièrement dur, en fait, mais aussi très intense, du coup, de la prière de Jérémie, alors qu'il lui parle de son ministère. Mais en effet, les lamentations sont malheureusement particulièrement actuelles. Et on ne peut pas lire la Bible tranquille dans notre coin en oubliant que, en fait, ça parle de la vie des vrais gens, comme on dit maintenant. Ouais. Au chapitre 20, Jérémie dit « Tu m'as séduit, Seigneur », c'est 20, verset 7. Et je me suis laissé séduire. Tu m'as maîtrisé, tu as été le plus fort. On a l'impression qu'il aurait voulu résister à sa vocation, mais qu'il n'a pas réussi. Et en effet, il dit, je me disais, je ne penserai plus à lui, c'est verset 9, je ne parlerai plus en son nom, mais c'était en mon cœur comme un feu dévorant, enfermé dans mes os. Je m'épuisais à le contenir, mais je n'ai pas pu. Voilà, je continue pas trop la lecture parce qu'il faut parler aussi du chapitre 18, mais en tout cas j'invite les auditeurs qui le souhaitent à lire ces prières, y compris quand on est dans la difficulté, parce que c'est important pour nous aussi de verbaliser quelque part notre détresse, y compris en parlant à Dieu. Un petit peu comme, faisons une incursion dans l'évangile, comme Jésus qui sur la croix dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il ne se plaint pas aux gens qui sont là en disant « Dieu m'a abandonné », mais il dit lui-même sa détresse à Dieu, et Jérémie le fait déjà, notamment au chapitre 20, mais pas seulement, avec des mots très forts.
Est-ce qu'on peut penser que cette prière adressée à Dieu peut faire changer Dieu d'avis, si je puis dire?
Alors,
est-ce
nous...
que ça peut conduire Dieu à se repentir? Et là, on revient au chapitre 18.
Ouais, effectivement, c'est tout à fait surprenant pour nous qui avons fait un catéchisme classique, parce qu'on nous a dit que Dieu est omniscient et que sa volonté est immuable. Et or, le texte de la Bible hébraïque, même si de fait les rabbins ont perçu la difficulté eux aussi, hein, il n'y a pas que la philosophie grecque qui a du mal à imaginer un Dieu modifiant ses plans. En tout cas, dans la Bible hébraïque, on voit, notamment avec l'usage du verbe niham, se repentir ou regretter, on voit la possibilité et quelquefois la réalité que Dieu change en fait de plan. Alors je vous propose effectivement de lire ce texte où Jérémie descend chez le potier, on en avait parlé tout à l'heure, et au chapitre 18, vous avez dès le début du chapitre l'ordre de Dieu, la parole qui fut adressée à Jérémie, « Debout, descend chez le potier ». Et là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis chez le potier et voici qu'il travaillait au tour. Alors là, Jérémie va voir. On en a déjà parlé, Jean-Michel, il y a quelque temps, puisque vous étiez dans mon jury de thèse et c'est un des textes que j'avais étudié. Voilà, on s'en souvient. Hein. En fait, on voit ici une scène de la vie quotidienne dans l'atelier du potier. Et Jérémie dit, en fait, en racontant cette scène, quand le vase que faisait le potier était manqué, alors... il recommençait, faisait un autre vase, ainsi qu'il est bon aux yeux du potier. Alors, on a une scène vraiment de la vie de l'artisan et de la vie du prophète. On se demande un petit peu ce qui va en sortir, faut avouer. Hein. Eh bien, le Seigneur va l'expliquer, et toute la suite du passage, donc 18, Jérémie 18, versets 5 à 12, ce sont des paroles du Seigneur qui, en fait, expliquent, j'allais dire familièrement, brodent sur cette scène de la vie quotidienne. Et le Seigneur dit, « Est-ce que je ne suis pas capable d'agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ?» Et il va expliquer en fait que lui-même, Dieu, a le pouvoir de remodeler en quelque sorte l'histoire quand le peuple n'arrive pas à accomplir son dessein ou quand la volonté de Dieu ne peut pas s'accomplir. C'est extrêmement positif, vous voyez. « Oui, comme l'argile dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, maison d'Israël. » On a l'impression que Dieu dit, non seulement vous êtes, enfin, je suis capable d'agir envers vous comme ce potier, mais vous-même, vous devez vous conduire comme l'argile dans la main du potier. Sachez bien que je suis comme un bon potier et j'ai le pouvoir de mener l'histoire à bonne fin. Et pour vous, effectivement, eh bien, mon projet finira par se réaliser. Et on a l'impression que, d'ailleurs, c'est malheureusement décrit en long et en large dans les prophètes, et en particulier chez Jérémie, même si vous vous conduisez très mal, et même s'il y a un certain nombre de catastrophes, eh bien, mon projet se réalisera. Alors, malheureusement, le texte ne se termine pas là, c'est-à-dire qu'au verset 7 à 12, on sent qu'en fait, la situation est tout à fait ambivalente. Et en fait, le Seigneur dit qu'il est capable... en fonction de l'action du peuple, de renoncer à son projet, soit en bien, soit en mal. Alors je laisse les auditeurs lire cela, mais c'est assez impressionnant de voir que, en fonction de la conduite du peuple, Dieu s'engage à le traiter de la meilleure manière qui soit, si par exemple il se convertit du mal. Au contraire, s'il commet le mal alors que Dieu avait des bons projets pour lui, eh bien c'est le malheur qui va lui arriver. Il faut savoir que en hébreu, le mot malice ou en fait quand quelqu'un commet le mal, c'est le même mot qui est employé dans un certain nombre de passages et ici en particulier pour dire qu'il va arriver un malheur au peuple. Si vous voulez, comme si le mot mal en français était utilisé pour dire bah, si vous commettez le mal, alors il va vous arriver un grand malheur. Et c'est effectivement sur ce registre très ambivalent que Dieu se place en expliquant la vision du potier.
Est-ce qu'on pourrait dire que Dieu écrit l'histoire, non pas sans les hommes, mais avec les hommes et parfois contre eux? Ou est-ce que les hommes... évidemment, je pense au texte qui, moi, qui était celui au cœur de ma thèse, du combat de Jacob. Avec cet être mystérieux qui se révèle être Dieu au guet du Yabok, et où Dieu lui dit, tu as lutté avec les hommes et avec Dieu, et tu as prévalu. Et donc, il a prévalu non seulement avec les hommes, mais prévalu aussi avec Dieu. Donc, on est là, en dehors du tracé de notre catéchisme habituel.
Oui, c'est tout à fait surprenant, mais en effet, je crois que Dieu, en quelque sorte, même si on peut effectivement croire que dans sa liberté souveraine, il conduit l'histoire et qu'il sait qu'il va la mener à bonne fin, de notre côté, tout se produit comme si, en même temps, il s'adaptait à notre conduite. Et c'est assez étonnant. Les pères de l'Église, en méditant là-dessus, notamment les Grecs, ont parlé de la condescendance de Dieu qui semble parle un langage en fait que nous pouvons comprendre en semblant changer d'avis. Et c'est une solution possible en théologie, vous voyez. En tout cas, ce qui se passe de notre point de vue, c'est que Dieu, effectivement, prend très au sérieux notre liberté et notre responsabilité. Et Jérémie n'aura de cesse de le clamer. Je crois que c'était déjà le cas pour Jacob, en effet.
C'est déjà toujours une question de point de vue. Mmh. De notre point de vue, c'est Dieu qui change, mais voilà. Mmh. Mais en tout cas, Dieu n'écrit pas son histoire d'alliance sans nous.
C'est, en tout cas, c'est sa miséricorde. Pardon. C'est sa miséricorde qui va jusqu'à prendre au sérieux notre conduite et en quelque sorte nous tendre la main et nous demander à chaque fois « s'il te plaît ». Et c'est ce qui se passe vraiment dans le livre de Jérémie à bien des reprises.
Merci beaucoup, Cyprien Comte, d'avoir été encore avec nous pour cette troisième émission. Il nous reste encore une émission sur le prophète Jérémie la semaine prochaine. Donc, je vous donne rendez-vous avec vous, Cyprien.
Merci, à bientôt.
À bientôt.